Eh bien, bonjour à tous. Et c'est une joie et un privilège d'être là ce matin pour partager avec vous la parole de Dieu. Je suis déjà venu à cette église, mais quand ça se réunissait à Aix, à la Nouvelle Alliance, je crois, c'était à l'époque, je suis venu deux fois. Là, enfin, non, une fois, c'était dans un appartement. Et c'était votre dernier dimanche dans cet appartement, avant que vous commenciez à vous réunir à la Nouvelle Alliance, si mes souvenirs sont bons. C'était dans une cité, au rez-de-chaussée, et j'étais là un dimanche, on a mangé ensemble, je me rappelle bien. Ça, c'était la première fois. Et la deuxième fois, c'était à la Nouvelle Alliance. Et là, je suis déjà venu dans ces locaux. Je crois que c'était à l'inauguration, quand vous avez fait un petit goûter, etc., pour inaugurer ces locaux. Je connais bien David, et moins son épouse, mais je la connais aussi, nous la connaissons, et nous sommes heureux d'être là. Donc moi, je m'appelle Graham, et mon épouse Alison, donc nous sommes de l'Écosse d'origine, vous savez où c'est, hein, au nord de la Grande-Bretagne, voilà, qui n'est plus dans partie de l'Europe, malheureusement. Et on sera encore moins à la fin de ce mois, si j'ai bien compris. On verra ce que ça donne. Personne ne le sait, je crois. Voilà. Alors nous sommes en France depuis 1973. Et donc on a commencé un peu à Grenoble, dans les Hautes-Alpes. On est allé ensuite à Caen, en Normandie. Et puis on est descendu à Marseille en 1980. Donc nous sommes dans la grande banlieue marseillaise depuis. Et sauf 2 ans à Apt, j'étais pasteur d'une petite église là à Apt, dans le Vaucluse. Et on est redescendu à Marseille après, en 99, et on est là depuis. Notre ministère a été un ministère pastoral, plutôt dans les églises, consolider les églises, etc., structurer. On a fait un travail pionnier aussi. Et puis les 10 dernières années de notre ministère actif, j'étais directeur de la Voix de l'Évangile, qui n'est pas trop loin d'ici. C'est à Bouc-Bel-Air, à la Mounine, où on a une propriété là. Et puis j'ai dirigé cette œuvre pendant 10 ans, avec la grande assistance de mon épouse. Et on a passé le relais en 2016. Donc ça va faire 3 ans cet été. Et c'est un autre directeur, Laurent Dufour, qui dirige l'œuvre de la Voix de l'Évangile. Donc, qui fait des émissions de radio pour le monde francophone, qui fait des cours bibliques par correspondance aussi, et qui fait des éditions. Donc, nous publions des livres, des petits livres, hein, principalement d'évangélisation, etc. Donc, voilà un petit peu notre parcours. On parle de retraite. Et je me demande ce que je faisais quand je travaillais, parce que là, la retraite, bon, on n'est pas vraiment à la retraite quand on est serviteur de Dieu. Je prêche pas mal, à droite et à gauche, ici ce matin et dans d'autres églises aussi, dans la région. Et c'est toujours une joie de servir. Voilà. Alors, j'aimerais lire avec vous 3 textes dont on a déjà lu un ce matin, dans Éphésiens 2, mais 3 textes qui sont assez bien connus et qui nous parlent, vous verrez bien, de la grâce. Donc, Éphésiens 2 d'abord et les versets 8 et 9 que nous avons déjà lus, comme je viens de le dire. Alors, Éphésiens chapitre 2, verset 8, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu, ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Et puis dans 2 Corinthiens chapitre 12, et on va lire les 4 premiers versets d'abord, et puis on va lire les versets 7 à 9 après. Donc 2 Corinthiens 12, les 4 premiers versets. Alors c'est Paul qui parle, il défend son apostolat, son ministère apostolique dans ces chapitres-là. Et puis, voilà, il parle de ses expériences. Et puis, dans 2 Corinthiens 12, verset 1, il dit, j'en viendrai néanmoins à des visions et à des révélations du Seigneur. Je connais un homme en Christ, il parle de lui-même, hein, qui fut, il y a 14 ans, ravi jusqu'au troisième ciel. Si ce fut dans son corps, je ne sais. Si ce fut hors de son corps, je ne sais, Dieu le sait. Et je sais que cet homme, si ce fut dans son corps ou sans son corps, je ne sais, Dieu le sait, cet homme fut enlevé jusqu'au dans le paradis et qu'il entendit des paroles ineffables qu'il n'est pas permis d'un un homme d'exprimer. Et puis verset 7 du même chapitre. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. Trois fois, j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi et il m'a dit, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Et puis, un troisième texte qui est un verset seulement, dans Actes chapitre 11 et le verset 23, Actes 11 et verset 23, où nous lisons, « Lorsqu'il fut arrivé et qu'il eut vu la grâce de Dieu, il s'en réjouit et il les exhorta tous à rester d'un cœur ferme, attaché au Seigneur. » Et que le Seigneur bénisse cette lecture de sa parole à nos cœurs. Dans ces trois textes que nous venons de lire, il est évidemment question de la grâce de Dieu. La grâce qui sauve, la grâce qui entretient dans la vie chrétienne, et puis la grâce qui encourage. On verra ça dans un instant. Souvent, nous pouvons parler de la grâce du passé, la grâce du présent, la grâce de l'avenir, en quelque sorte, ce qui serait représenté dans ces trois textes. La grâce qui sauve, dans Éphésiens chapitre 2, la grâce qui nous entretient, qui nous aide à servir Dieu, la grâce du présent, et puis la grâce de l'avenir pour encourager les autres. Mais il est évident que nous ne pouvons pas diviser la grâce de cette manière-là. Je crois que la grâce se conjugue, si je puis le dire ainsi, toujours au présent. Hein? Même si on parle de la grâce du passé, de la grâce du présent, de la grâce pour l'avenir, c'est toujours la grâce du début jusqu'à la fin. C'est la grâce de Dieu dans notre vie. Alors nous pouvons nous commencer par nous poser la question, qu'est-ce que c'est la grâce? Je suis sûr que vous pouvez répondre à cette question. Eh bien, la grâce, c'est tout simplement la faveur non méritée de Dieu. C'est ce que Dieu nous donne que nous ne méritons pas. Et je suis sûr que vous serez d'accord ce matin que nous ne méritons rien de la part de Dieu. Et que si nous avons quelque chose, eh bien, c'est par sa grâce. Ce sont, dit quelqu'un, les richesses de Dieu versées sur nous aux dépens du Christ. Donc, c'est par Jésus-Christ que nous avons reçu la grâce de Dieu. Et nous avons toutes les richesses de Dieu à notre disposition à cause de Christ et à cause de son sacrifice sur la croix. Et il y a un verset dans 2 Corinthiens chapitre 8 et verset 9 qui nous décrit parfaitement cela. Et ce verset nous dit, « Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté vous fussiez enrichis. » Et là, ça parle de notre Seigneur Jésus-Christ qui a quitté le ciel, qui a quitté la perfection de Dieu, la présence de Dieu pour venir dans ce monde. Combien il était riche dans l'éternité passée, on ne saura jamais. Il n'était pas riche matériellement, évidemment, mais riche spirituellement. Il partageait la gloire de Dieu. Et d'ailleurs, si vous lisez dans Jean chapitre 17, qui est souvent appelé la prière sacerdotale de Jésus-Christ, où il prie pour ses disciples, il prie pour nous aussi, eh bien, il parle de cette gloire de Dieu qu'il partageait avant que le monde fût. Avant que le monde soit créé, Jésus-Christ était là, avant le monde, avec Dieu, dans la gloire éternelle. Il a quitté cette gloire. Il n'a pas quitté sa gloire dans ce sens-là. Il a voilé, quelqu'un a dit, sa gloire, hein, pour qu'on puisse le voir, pour qu'on puisse le contempler. Et il est venu ici-bas. Donc imaginez que vous vivez dans un monde sans microbes, sans mal, sans quoi que ce soit, et vous venez dans un monde qui est pécheur, un monde que vous n'avez jamais connu auparavant, eh bien le Seigneur Jésus-Christ a fait cela pour nous. De riche qu'il était dans l'éternité passée, il s'est fait pauvre, il s'est identifié avec le péché pour que nous puissions être enrichis. Et si par sa grâce, ce matin, nous sommes riches en Jésus-Christ, riches spirituellement, bien sûr, eh bien, c'est à cause de sa descente. C'est à cause du fait qu'il a accepté de venir dans ce monde et aller jusqu'au bout, aller jusqu'à la croix pour mourir pour nous et ressusciter, bien sûr, pour notre justification, afin que nous soyons enrichis, afin que nous puissions connaître les richesses de Dieu en Jésus-Christ. Alors voilà un petit peu ce que c'est la grâce, les richesses de Dieu aux dépens du Christ. Elle se différencie de la miséricorde de Dieu, parce que souvent il est question de la grâce, de la miséricorde de Dieu qui sont associées souvent dans les paroles, dans les épîtres. Eh bien, elle se différencie dans ce sens que si la grâce nous donne ce que nous ne méritons pas, la miséricorde retient ce que nous méritons. Alors la miséricorde de Dieu, nous méritons, c'est la miséricorde de Dieu qui nous garde du jugement de Dieu. Si nous ne sommes pas consumés, c'est à cause de la miséricorde de Dieu. Et bien sûr, nous avons les richesses de Dieu dans la grâce de Dieu. Et à partir de ces trois textes que nous avons lus, j'aimerais partager trois petits points avec vous ce matin. Donc tout d'abord, la grâce de Dieu essentielle pour le salut. La grâce de Dieu essentielle pour le salut. Nous l'avons lu dans notre premier texte, dans Éphésiens 2, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Je pense que ces versets n'ont pas besoin vraiment d'explications ou de commentaires. C'est assez clair, n'est-ce pas, que c'est par cette faveur non méritée de Dieu que nous sommes sauvés. Et la chose souvent la plus difficile pour beaucoup, c'est d'accepter tout simplement la grâce de Dieu. D'accepter tout simplement la grâce de Dieu. Parce que nous aimons faire quelque chose en échange de ce que nous recevons, n'est-ce pas? Surtout dans le midi. Enfin, je dis surtout dans le midi, mais peut-être pas spécialement. Hein? Mais c'est vrai qu'ici, on n'aime pas recevoir quelque chose sans donner quelque chose en retour. Hein? Et d'accepter la grâce de Dieu tout simplement sans faire quelque chose de notre part pour mériter cette faveur, c'est difficile et c'est souvent une pierre d'achoppement pour beaucoup de gens, n'est-ce pas, d'accepter tout simplement la grâce de Dieu. Et ces versets disent que ce n'est pas par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Alors, il n'y aura personne dans le ciel qui pourra dire « Je suis là parce que j'ai fait ceci ou cela. » Ou « Je suis là parce que j'ai pratiqué fidèlement les commandements de Dieu, etc. » Parce qu'on n'a pas fait. Hein. Nous serons là par grâce. Parce que Dieu nous a sauvés, parce que nous avons accepté tout simplement sa grâce. Et c'est par le moyen de la foi. Puisque nous plaçons notre foi en Dieu, il nous donne en échange de notre foi, dit un épître, d'une épître, le salut de notre âme. C'est presque comme si on allait dans un magasin, c'est une illustration, bien sûr, nous donnons notre argent, en échange de notre argent, nous recevons ce que nous voulons acheté. Et là, par la grâce de Dieu, nous avons placé notre foi, enfin je l'espère en tout cas que c'est notre cas ce matin, nous avons placé notre confiance en Dieu, et en échange de cette confiance, en échange de cette foi, eh bien Dieu nous donne le salut de notre âme. Et c'est ça qui nous conduira un jour dans le ciel, n'est-ce pas, pour l'éternité, par la grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi. Ça ne vient pas de nous, c'est le don de Dieu, ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Alors, il y a des chrétiens qui croient, malheureusement, moi je crois en tout cas, à la perte du salut, c'est-à-dire qu'on peut être sauvé aujourd'hui, perdu demain. Hein? Et que si on tombe dans le péché, par exemple, bon, on peut perdre son salut. Je ne crois pas cela personnellement, et je me pose la question, mais qu'est-ce qui pourrait me faire perdre mon salut? D'accord, je pourrais pécher gravement, je pourrais tomber dans le péché, je pourrais m'éloigner de Dieu, mais si je suis vraiment sauvé par la grâce, eh bien, je crois que nous sommes sauvés pour l'éternité. On n'a pas le temps ce matin de rentrer dans tous les détails de cela, des arguments pour et contre, mais je ne crois pas du tout à cela. Je dois tout simplement dire que si on peut perdre son salut, ce n'est plus un salut par grâce, puisque ça doit être quelque chose que je dois faire pour le mériter. Si je dois faire quelque chose, eh bien ce n'est plus un salut par grâce. Si on peut le perdre, cela veut dire que ça dépend d'un effort de notre part, quelque part, pour le garder. Et je sais, bon, il y a un verset dans la Bible qui dit « Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement ». Et ça veut dire que nous devons, oui, honorer le salut que Dieu nous a donné. Nous ne devons pas tout simplement dire « Ah, je suis sauvé par grâce, je n'ai pas besoin de pratiquer la sainteté, je n'ai pas besoin de faire quoi que ce soit pour grandir dans les choses de Dieu. » Non, ce n'est pas ça du tout hein, qui est marqué dans la parole de Dieu. Mais travailler à votre salut, ça ne veut pas dire qu'il faut travailler pour l'avoir, mais perfectionner votre salut en quelque sorte. Hein. Appliquez-vous à votre salut que vous avez reçu afin de grandir, afin de porter du fruit pour la gloire de Dieu. Et tout ça, bien sûr, avec l'aide du Saint-Esprit, le Saint-Esprit qui est en nous, par la vie de Dieu, par la grâce aussi, et qui nous aide à vivre pour Dieu, et qui nous aide à produire le fruit de l'Esprit que vous trouverez dans chapitre 5 de l'Épître aux Galates. Alors, voilà, Dieu nous sauve par grâce, et la grâce de Dieu est essentielle pour le salut. Et j'espère que je parle à des gens ce matin qui ont mis leur confiance en Dieu par la grâce, que vous n'essayez pas de mériter quelque chose de la faveur de Dieu parce que vous n'arriverez pas. On est imparfait, on jamais on pourra atteindre ou satisfaire les demandes de Dieu par nos propres efforts. Et malheureusement, ça c'est la différence entre le christianisme et la religion. Parce que la religion essaye de monter vers Dieu, de faire des efforts, c'est comme une philosophie. On essaye de faire quelque chose pour plaire à Dieu et on ne peut pas. Mais le christianisme, ça ne monte pas vers Dieu, ça descend vers nous en Christ. Et Christ est descendu et il a construit un pont au-dessus de l'abîme qui nous sépare d'avec Dieu. Et nous pouvons traverser ce pont pour aller à lui, pour être réconciliés avec Dieu. Donc, c'est essentiel pour le salut. Mais la grâce de Dieu est essentielle pour le service. Et ça, c'est notre deuxième texte dans 2 Corinthiens que nous avons lu ensemble. Le contexte du passage, c'est Paul défend son apostolat. Il y en a qui disent qu'il n'était pas apôtre, qu'il y en a qui sont des super apôtres, etc. Et il commence à défendre son apostolat. Il y a des paroles qui sont assez fortes parfois. Et là, il dit, je pourrais même parler de révélation. Je pourrais même parler d'expérience où j'étais ravi au troisième ciel. Et ça, c'est le contexte du passage. Donc, où il parle de cette expérience dans sa vie chrétienne. Mais pour que Paul ne soit pas enflé d'orgueil, Dieu lui donne une écharde dans la chair. La parole de Dieu ne nous dit pas ce que c'était cette écharde. On ne sait pas. Beaucoup pensent que c'était sa santé, beaucoup pensent que c'était ses yeux même qui étaient cette écharde, parce que dans certains épîtres, il dit, je signe cette lettre de ma propre main. Donc l'idée, c'est qu'il dictait ses lettres, il dictait ses épîtres, et puis à la fin, on l'a lu, qu'il approuve, et puis il signe de sa propre main, puisqu'il ne voyait pas bien. On ne sait pas. On ne sait pas ce que c'était cette écharde, mais on pense souvent que c'était ses yeux. Peu importe, ce n'est pas très important ce que c'était, mais on sait qu'il avait quelque chose et que ça le narguait, hein, ça le piquait. On a cette image d'une écharde qui nous pique, qui nous nargue, hein, et c'est embêtant. Alors Paul demande trois fois au Seigneur de l'enlever, et chaque fois, il reçoit la même réponse. Chaque fois qu'il demande, Dieu dit, ma grâce te suffit. Donc Dieu n'enlève pas l'écharde, mais Dieu donne la grâce de le supporter. Ça, c'est parfois plus difficile à accepter en tant qu'être humain. Mais il y a une bonne leçon pour nous ici, à savoir que Dieu ne nous donne pas toujours ce que nous demandons. Dieu n'est pas le Père Noël, hein, qui nous donne, où il n'est pas une machine à distribuer, où on met de l'argent et on appuie sur un bouton et on reçoit ce qu'on a mis dans la machine. Dieu n'est pas comme ça. Et heureusement d'ailleurs. Et parfois, oui, c'est difficile de ne pas recevoir ce que nous demandons, mais heureusement, Dieu ne nous donne pas toujours ce que nous demandons ou ce que nous voulons, parce que c'est pour notre bien. Hein? Peut-être si un enfant nous demande un couteau, par exemple, pour jouer, on ne va pas lui donner, parce qu'on sait que c'est dangereux, on sait qu'il peut se faire mal avec cela, donc on refuse sa demande. Hein? Et Dieu est comme ça avec nous souvent. On demande quelque chose, il ne nous le donne pas, parce qu'il sait que ce ne sera pas bon pour nous. Et je me demande, est-ce que Paul était déçu? Peut-être parce qu'il n'avait pas obtenu cette demande de Dieu. Il demande, mais il ne reçoit pas. Dieu dit, ma grâce te suffit. Je ne dis pas qu'il était déçu de Dieu, bien que, mais peut-être déçu de la réponse de Dieu. Déçu que Dieu n'a pas répondu comme Paul aurait voulu. Et peut-être ce matin, cela vous arrive d'être déçu de la réponse que Dieu nous donne. Et oui, on peut être déçu de ce que Dieu ne nous donne pas. On demande quelque chose et puis on ne reçoit pas et on peut être un petit peu déçu. Soyons honnêtes, hein, parfois que nous le pouvons être ainsi. Je crois que aussi nous pouvons exprimer ça dans la présence de Dieu. Vous savez que Dieu a les épaules larges, si je puis le dire ainsi. Et Dieu ne serait pas choqué si on va lui dire qu'on est un petit peu déçu de sa réponse qu'il nous a donnée. Je crois que dans la parole de Dieu, nous avons des exemples de ça. Dans Jérémie, par exemple, vous lisez ce livre et vous lirez que Jérémie loue Dieu, parle à Dieu, est satisfait. Et puis, dans les versets suivants, il maudit le jour où il est né. Hein? Ça, nous avons ça, ce genre de roller coaster qui existe et où on peut être déçu de Dieu ou la réponse que Dieu nous donne. Et je vous encourage d'exprimer cela dans la présence de Dieu, de garder le respect, bien sûr. Dieu n'est pas notre copain, il est au-dessus de nous. Mais je crois qu'avec respect, nous pouvons dire, Seigneur, je ne comprends pas. Ça vous arrive de dire ça devant Dieu, Seigneur, je ne comprends pas. Je ne comprends pas ce qui est arrivé là. Je ne comprends pas ce qui m'arrive. Je ne comprends pas mes circonstances, etc. Mais je l'exprime dans ta présence. Alors, j'aimerais bien donner un mot de témoignage. Peut-être d'être déçu au début parce que j'ai été frappé par un cancer. Vous avez entendu peut-être cela. Un cancer du sein en plus, ce qui est très rare pour l'homme. Hein, il n'y a que 2% des hommes qui ont ça. J'étais complètement dans un monde féminin. Hein, là où j'étais opéré à Beauregard, il y avait une grosse plaque sur le mur, service de la chirurgie féminine. Alors c'était. Et puis on m'a dit, Monsieur Black, vous allez avoir une chambre seule et vous n'allez pas le payer. Alors je me suis dit, c'est très gentil de votre part parce que j'étais le seul homme à l'étage. Là. Et puis, envoyé chez un gynécologue, c'est exactement la même pathologie que pour une femme, exactement pareil. Envoyé chez un gynécologue, c'était un homme, ça c'était déjà bien. Et puis, on était là, on attend à être appelé, et le gynécologue se présente, et il y avait une jeune femme qui était en face de nous, et puis, je suppose qu'elle pensait qu'il allait appeler Madame Black quand il est venu. Alors quand il est sorti, il a dit « Monsieur Black », je vois un gros sourire sur le visage de la jeune femme et probablement elle se disait « Au moins il n'est pas là pour confirmer une thèse de grossesse ». Hein? Alors, vous voyez, c'était rigolo parfois, d'autres fois moins rigolo, hein? Mais c'était amusant parfois. Mais un petit témoignage où on était un peu peut-être déçu au début parce qu'on a reçu le maximum, si on peut le dire ainsi, au lieu du minimum. Parce qu'il y a un frère dans l'église qui m'a dit, mais qu'est-ce que c'est ça, Graham? Oh, tu verras, c'est une boule de graisse qu'on va opérer, qu'on va enlever, mais ce sera fini. Ouais, t'inquiète pas. Hein? Eh bien, on a prié pour ça aussi, que ce soit une boule de graisse, mais ce n'était pas. C'était une tumeur cancéreuse, bien cancéreuse en plus. On m'a enlevé des ganglions aussi. Mais on a reçu, si on peut le dire ainsi, le maximum au lieu du minimum. Et on a prié à ce sujet. Et puis, le message qu'on a reçu à ce moment-là, c'était « Ma grâce te suffit. Ma grâce te suffit. » Quand il était évident que la route allait être vraiment longue, opération, chimiothérapie, radiothérapie, etc. Eh bien, nous avons prié que si nous n'avons pas obtenu le minimum, que nous ayons la grâce d'accepter le maximum. C'est pas évident. Et je ne joue pas de l'homme super spirituel ce matin en disant ça. Mais c'était pas évident, mais je crois que c'est le message que Dieu nous a donné à ce moment-là. Et il n'y a pas de situation représentée ici, ce matin, où la grâce de Dieu n'est pas nécessaire. Nous avons tous besoin de la grâce de Dieu. Ce serait intéressant d'avoir une petite réunion de témoignages où chacun dirait où il ou elle a besoin de la grâce de Dieu. Je ne vais pas le faire, ne vous inquiétez pas. Mais ce serait intéressant de dire, n'est-ce pas, à cause de ceci. À cause d'une relation dans ma vie, à cause de ma situation financière, à cause de ceci, à cause de cela, à cause d'une situation que je vis presque en permanence, et j'ai besoin de la grâce de Dieu pour cela, pour le supporter. Je prie le Seigneur de l'enlever, je prie le Seigneur de changer la situation, mais ça ne change pas. Dieu n'enlève pas cette épine, si je puis le dire ainsi, hein, cette écharde dans la chair, et je dois rester avec ça. Et Dieu me dit ce matin, ma grâce te suffit. Nous avons tous besoin de ce ma grâce te suffit. Puis vous remarquerez aussi dans le texte que c'est marqué, ma grâce te suffit. Non pas ma grâce t'a suffi ou te suffira de passer. Ou le futur, mais le présent. Hein? C'est pour le présent. C'est pour aujourd'hui. C'est pour cette situation actuelle que tu as peut-être beaucoup de mal à supporter. C'est pour ces circonstances présente que Dieu nous dit « Ma grâce te suffit ». Donc pour servir Dieu aussi, la grâce de Dieu est essentielle, non seulement pour le salut, mais aussi pour le service, pour servir Dieu d'une manière continue. Et puis, la grâce de Dieu est essentielle comme source d'encouragement. Nous arrivons à notre troisième point et à notre troisième texte. Acte 11, verset 23. « Lorsqu'il fut arrivé et qu'il eut vu la grâce de Dieu, il s'en réjouit et il exhorta tous à rester d'un cœur ferme, attaché au Seigneur. » Vous savez de qui il s'agit ? Il s'agit de Barnabas. De Barnabas, dans ce texte, il est question de lui. Il est bien nommé car son nom veut dire « fils de consolation » ou « fils d'encouragement ». Barnabas, un fils de consolation, un fils d'encouragement. Et Barnabas était celui qui était un encouragement pour les autres. Si jamais il y a quelque chose, je ne sais pas pour vous, que je désire être, c'est un Barnabas. J'aimerais bien qu'on écrive sur ma tombe, eh bien, il était un encouragement pour les autres. Et je crois que c'est ce que nous désirons tous à la base, n'est-ce pas, être une source d'encouragement. Je dis souvent pour les chrétiens, je le dis dans les églises où je prêche souvent, si vous ne pouvez pas m'encourager, ne me découragez pas. Si vous ne pouvez pas m'encourager, ne me découragez pas. Je peux me décourager tout seul, comme un grand. Je n'ai pas besoin d'aide pour ça. Et on sait ce que c'est de tomber dans le découragement, n'est-ce pas? C'est terrible et d'être découragé. Et on n'a pas besoin d'aide d'être découragé, mais on a besoin d'aide et de soutien pour être encouragé et pour aller de l'avant. Nous avons un exemple dans notre texte de cet homme qui a encouragé les autres. Il s'est réjoui quand il a vu la grâce de Dieu. Alors vous lisez ce chapitre, dans le chapitre 11. Barnabas était appelé dans cette situation dont il n'était pas originaire. Il est venu témoigner, enfin pour être témoin de la grâce de Dieu. Et il a vu ce qui se passait là. Il a vu des conversions, il a vu la grâce de Dieu en opération. Et il s'est réjoui quand il a vu la grâce de Dieu. Ça, c'est bien ça. Est-ce que nous nous réjouissons quand nous voyons la grâce de Dieu? Parfois dans l'église, ce n'est pas ce qu'on voit toujours. On ne se réjouit pas quand on voit la grâce de Dieu. On voit parfois la jalousie. On voit parfois l'envie à ce que ce soit comme ça ou d'autres choses. Vous savez, quand on voit une église qui est plus grande que la nôtre, une salle qui est plus belle, etc., etc., toutes sortes de circonstances que nous pourrions décrire, et on ne se réjouit pas toujours. Il y a de la jalousie. Et Paul se réjouissait même quand la parole de Dieu était prêchée, pour des mauvaises raisons. Il y en avait qui prêchaient la parole et ça lui faisait mal. On a du mal à comprendre ça, mais il se réjouissait quand même que la parole était prêchée. C'est bien, mais ce n'est pas toujours le cas dans notre vie chrétienne et dans nos églises, etc. Se réjouir quand on voit le succès d'un autre. Se réjouir quand on en voit la bénédiction de Dieu sur quelqu'un d'autre. L'image me vient de deux hommes qui font la pêche. Il y en a un qui a un vulgaire bout de bois, un petit peu de ficelle, et puis voilà, il pêche avec ça. Et un autre un peu plus loin qui a une canne splendide, qu'il a payé cher, et beaucoup de matériel, tout le matériel qu'il faut. Et j'ai vu ça, on était chez des amis, près de Tarbes, il y avait un homme qui faisait la pêche. Et qu'est-ce qu'il avait comme équipement? Waouh! Ça a dû coûter très cher, et il était bien équipé. Et puis, ces deux hommes, donc un pas équipé du tout, et l'autre équipé, eh bien, ils font la pêche. Et celui qui a un vulgaire bout de bois, qui n'a rien du tout, il sort les poissons l'un après l'autre. Il sort beaucoup. Et puis l'autre qui a tout le matériel, tout le bel canne et tout, il pêche, il n'attrape rien. Rien du tout. Il ne sort pas un poisson. Alors, je suis sûr que si j'étais l'homme qui était bien équipé, je me poserais des questions. Mais comment ça se fait, ça? Comment ça se fait que lui, il n'a rien du tout, pas de matériel, et il sort des poissons, et moi, je suis bien équipé, j'ai tout, mais j'attrape rien. Difficile à comprendre, hein? Difficile à expliquer. Mais souvent, la grâce de Dieu, c'est un peu comme ça aussi. Dieu bénit dans un endroit, pas dans un autre. Dieu donne dans un endroit, pas dans un autre, etc., etc. Dieu bénit une famille d'une manière, et puis d'autres familles qui luttent, etc. Enfin, on pourrait faire toute une liste, n'est-ce pas? Puis on se pose des questions. Pourquoi? Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça, pour ne pas mériter? Et souvent, la grâce de Dieu, c'est comme ça. Et je crois que il faut apprendre à se réjouir quand on voit la grâce de Dieu, comme Barnabas. Il aurait pu dire, mais c'est un bon prédicateur, Paul. Hein? Wow, qu'est-ce qu'il a comme don? Qu'est-ce qu'il a comme don, capacité, etc. Le travail qu'il voit. Barnabas ne se pose pas de questions. Il n'a pas dit, moi j'aimerais bien être à la place de Paul. Moi j'aimerais bien être à l'origine de cette œuvre-là. Il n'a pas dit tout ça. Il s'est réjoui quand il a vu la grâce de Dieu. Et puis, il a encouragé les autres à rester d'un cœur ferme, attaché au Seigneur. Hein? Si je regarde ma vie et si d'autres me regardent, est-ce qu'ils pourraient dire, Graham, c'est quelqu'un qui m'aide à m'attacher, à cœur ferme, attaché au Seigneur? Ou est-ce que j'éloigne les chrétiens? Hein? Est-ce que je suis quelqu'un qui a une épine dans la chair pour mes frères et sœurs? Ou est-ce que je suis un encouragement? Hein? Ou dire, Graham, au moins, il encourage. Il m'encourage à m'attacher au Seigneur. Posons-nous la question. Hein? Ça vaut la peine. Peut-être la réponse n'est pas facile. Mais ça vaut la peine de se poser la question si on est un encouragement à des autres à rester d'un cœur ferme, attaché au Seigneur. Nous pouvons tous avoir ce ministère, être une source d'encouragement pour les autres. Et pour cela, nous avons besoin que la grâce de Dieu soit opérationnelle dans notre vie. Que nous soyons façonnés, travaillés, modelés par la grâce de Dieu dans notre vie. Alors je vais conclure par nous poser quelques questions par rapport à ce que nous avons vu ce matin. Alors, est-ce que nous comptons uniquement sur la grâce de Dieu pour notre salut? Ou est-ce que nous essayons peut-être encore de faire quelque chose pour mériter la faveur de Dieu? Ou est-ce que nous plaçons notre foi tout simplement en Dieu, en ce qu'il a fait en Christ, pour être sauvés? Avons-nous saisi et ouvert notre cœur à la grâce de Dieu pour nous-mêmes? Est-ce que nous l'avons fait ce matin? Et si oui, ben, on se réjouit ensemble de cela. Saisissons-nous la grâce de Dieu pour les circonstances quotidiennes? Pouvons-nous dire avec conviction, ta grâce me suffit, ta grâce me suffit. Et sommes-nous une source d'encouragement par la grâce de Dieu? Sinon, est-ce que je m'engage de le devenir pour que la grâce de Dieu soit active dans ma vie? Oh oui, Seigneur, je veux ta grâce. Je veux ta grâce m'inonde. Je veux être une personne comme Barnabas qui me réjouit quand je vois la grâce de Dieu. Je veux être quelqu'un, oui, qui encourage les autres. Et je veux que ta grâce m'inonde. Je veux ta grâce me contrôle et prenne le contrôle de ma vie pour que je puisse le partager avec d'autres. Que ce soit notre cas. Et vous savez que nous avons commencé par la grâce, eh bien, on finira aussi par la grâce. C'est par la grâce que nous sommes sauvés. C'est par la grâce que nous sommes gardés, c'est par la grâce que nous entrerons dans le ciel et que nous serons pour toujours avec le Seigneur. La grâce pour le salut, la grâce pour le service, la grâce pour être une source d'encouragement pour les autres. Que ce soit ainsi, que ce soit notre expérience, chaque jour, chaque semaine, chaque mois, chaque année de notre vie chrétienne ici-bas pour la gloire de Dieu. Amen. Pouvons peut-être prier. Et Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier pour ces moments passés ensemble. Merci pour ta parole. Merci pour ta grâce. Merci pour cette grâce qui est opérationnelle dans ma vie. Tu m'as sauvé par grâce, tu me gardes par grâce et tu me feras entrer dans la gloire par grâce. Merci Seigneur et merci pour chacun qui partage cette expérience ce matin. Seigneur, je te prie pour que ta grâce nous inonde de plus en plus, pour que nous soyons façonnés et formés par ta grâce pour te servir. Je te prie Seigneur de bénir cette église ici, de bénir chaque membre, de bénir les activités, ce qu'ils peuvent vivre pour toi. Je te prie, Seigneur, de les bénir, de bénir le témoignage ici et que d'autres autour, Seigneur, soient touchés par ta grâce. Nous te bénissons ensemble pour tous tes bienfaits et nous te prions, Seigneur, pour ces moments que nous resterons dans ta présence. Seigneur, que nous soyons conscients de ta puissance, de ta présence parmi nous. Et nous te bénissons ensemble pour ces moments, pour cette expérience, ce matin, pour ta parole. Bénis-nous, nous te prions, et nous nous plaçons entre tes mains. Au nom de Jésus. Amen.
Amen. En réponse à cette prédication, je vous invite à...